Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi. C'est arrivé aujourd'hui.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Nous sommes un 6 septembre et direction l'année 1972. Cette date, donc le 6 septembre 1972, marquait la fin de la terrible et dramatique prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich, commencée 24 heures avant, donc le 5 septembre 1972. Les Jeux Olympiques de Munich se changeaient en drame après cette prise d'otage de sportifs israéliens par un commando palestinien. Un drame qui aura fait 11 victimes. On revient avec François Vantôme sur ce moment d'histoire qui a pris fin dans des circonstances dramatiques et qui ont, entre autres, pointer les lacunes des organisateurs allemands.
Munich 1972, les yeux du monde sont braqués sur la Bavière et l'Allemagne de l'Ouest veut envoyer un message fort de paix et de modernité. Il s'agit de tourner une page par rapport aux ténèbres du passé, notamment les Jeux de Berlin en 1936, et de montrer au monde qu'un pays issu de la guerre peut être porteur d'espoir et d'avenir plus avancé que son adversaire est-allemand. La transformation de la ville et des Jeux est spectaculaire. Un stade olympique d'une modernité remarquable, un village olympique pensé pour la convivialité et la fonctionnalité dans l'esthétique d'une époque où le mouvement hippie côtoie l'optimisme technologique. Le village à taille humaine réserve même une discothèque où les rencontres se nouent. Les Jeux de 72 incarnent une transition sécurité mesurée mais efficace et une atmosphère globalement festive et tranquille, loin des remous de la guerre froide, Munich devient ainsi un cocon de paix dans un monde en tension et l'olympisme demeure une métaphore de l'effort commun pour la paix entre les hommes. Et puis tout bascule. Ce mardi 5 septembre, le 11e jour des Jeux, 8 hommes habillés de survêtements et portant des sacs à dos escaladent la clôture du village olympique et se dirigent vers le 31 rue Connolly où loge la délégation israélienne. Ils apparaissent comme des athlètes, mais masqués et armés, ils font irruption dans les chambres des Israéliens. Dans l'échauffement brutal, un entraîneur et un haltérophile sont tués. Plusieurs autres athlètes sont maîtrisés, 9 sportifs restant captifs, les mains liées dans le dos. 2 femmes de ménage, situées à proximité, alertent les secours après avoir entendu des coups de feu. Peu après 8 heures, près de 3000 policiers se déploient dans le village et autour, des tireurs d'élite arrivent et encerclent l'immeuble où se trouvent les otages. L'organisation palestinienne revendique l'attaque et exige la libération de plus de 200 prisonniers détenus en Israël. Le gouvernement de Golda Meir refuse et les demandes sont repoussées à plusieurs reprises au cours de la journée. Au gré des négociations entre les autorités ouest-allemandes et les preneurs d'otages. Pendant ce temps, des milliers de personnes massent les abords du village et les compétitions continuent timidement. Finalement, l'incertitude demeure et le programme des JO est bouleversé lorsque, à 15h50, les organisateurs annoncent la suspension des Jeux. Peu après 22h, les fédaïnes et les 9 otages sont transportés en autocar vers 2 hélicoptères qui décollent pour l'aéroport militaire de Fürstenfeldbruck, près de Munich. Les officiels allemands ont pris place à bord d'un 3e hélicoptère. Les négociateurs ont en effet convaincu les preneurs d'otages de rejoindre ce lieu pour partir au Caire à bord d'un avion mis à leur disposition. En fait, une intervention policière est prévue à l'aéroport où 5 tireurs d'élite sont positionnés pour neutraliser le commando et libérer les otages. La fusillade éclate rapidement, les échanges de tirs se prolongent, un fedaïn lance alors une grenade dans un hélicoptère qui explose et prend feu. Vers minuit, le porte-parole du gouvernement fédéral affirme que l'opération des récupérations a été couronnée de succès. Selon la police, tous les otages sont sains et saufs. Alors que la police annonce une conférence de presse à Munich, l'un des reporters de l'AFP présent à l'aéroport, Charles Bietri, suspecte une diversion.
Et moi, j'y crois pas, c'est pas possible, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Donc je repars faire mon tour dans la campagne allemande, et là j'ai une chance extraordinaire, une toute petite porte moitié dérobée, une poterne, la porte s'ouvre, un monsieur sort, j'ai vers lui, il m'a dit, vous savez ce qui s'est passé, et lui, il est incroyable, on a tout manqué. Tous les otages sont morts. Il y a 4 fédaïnes, on disait les fédaïnes à cette époque-là, 4 fédaïnes qui ont été abattues. C'est incroyable. Et puis il a des larmes qui pleurent, qui perlent sur son visage. Et je suis pétrifié. Je le laisse partir. Et puis là, réflexe, agence France Presse. C'est qui? C'est quoi? Qui c'est ce monsieur? Donc je lui cours après. J'ai dit, vous êtes qui? Lui aussi est dans un autre monde. Il pense même pas qu'il parle à un journaliste, à un Français, rien du tout. Il dit, je suis Kronaditer, le maire de Munich. Et là, je dois décider, je le crois ou je le crois pas. C'est des petites choses, son costume, sa chemise, son allure, son visage et tout. Je dis, ce monsieur-là, il sort d'une terrible épreuve et émotion, il peut pas mentir.
Alors que les journaux prévoient de diffuser la fausse bonne nouvelle dès le lendemain, à 2h16 locale, l'AFP annonce à ses clients dans le monde entier que tous les otages ont été tués. Les autorités allemandes ne confirmeront l'information que 56 minutes plus tard. 11 Israéliens sont donc morts, les 9 otages et les 2 membres de l'équipe tués au début de l'attaque. Un policier ouest-allemand a également été victime de la fusillade. 5 membres du commando ont été tués, les 3 autres arrêtés. Alors que la polémique sur le fiasco de l'opération policière fait rage et que la délégation israélienne endeuillée quitte rapidement Munich, le Comité international olympique annonce dans la matinée du 6 septembre que les Jeux continuent. Nous ne pouvons pas tolérer qu'une poignée de terroristes détruise ce noyau de la collaboration internationale et de la bonne volonté que constituent les Jeux olympiques, déclare son président Avery Brundage. Une décision largement critiquée. Seule une poignée d'athlètes décideront de quitter la ville allemande en même temps que les Israéliens. 50 ans après et des décennies de négociations confidentielles, le gouvernement allemand et les familles de victimes israéliennes sont finalement parvenus à un accord prévoyant une enveloppe d'indemnisation de 28 millions d'euros qui sera en partie versée par la Bavière et la ville de Munich. Dans son discours officiel lors des commémorations des 50 ans, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon aux proches des victimes de l'attentat de Munich. Une demande adressée symboliquement à son homologue israélien Isaac Herzog, présent à la cérémonie.
En tant que chef d'État de ce pays et au nom de la République fédérale d'Allemagne, je vous demande pardon pour le manque de protection des athlètes israéliens au moment des Jeux Olympiques de Munich et pour le manque d'explication par la suite et pour le fait que ce qui est arrivé est arrivé.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain. Ouais, tu aimais gagner ton temps dans les trop tard de tes 30 ans.
C'était Love et Tendresse d'Eddie De Preto en ce samedi sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez le français sur Radio SBS. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va parler de diplomatie, en tout cas de la forme que parfois la diplomatie peut prendre. On appelle ça le soft power. C'est par exemple ce que font les États-Unis à travers Hollywood et les films qu'ils diffusent à travers le monde entier. Il y a aussi une autre forme de soft power qui consiste à mettre en avant les animaux typiques de certains pays. La Chine pratique ainsi encore très régulièrement ce qu'on appelle la diplomatie du panda. Et vous vous en doutez, l'Australie, avec une faune aussi incroyable et surtout aussi unique que celle qu'on trouve en Australie, si également adonnée par le passé, c'est ce qu'on a appelé la diplomatie de l'ornithorynque. Alors, comme d'habitude, pour en parler avec nous, nous retrouvons l'historien Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory et bonjour chers auditeurs.
Alors, pour parler de cette histoire, on va revenir à la première moitié du XXe siècle, au tournant des années 40. Avant qu'on rentre dans les détails de comment l'Australie a pratiqué cette forme de diplomatie animalière, je voulais vous demander de façon un petit peu générale, depuis quand ça existe le fait de donner des animaux typiques de tel ou tel pays à d'autres nations, et est-ce que c'est efficace comme forme de diplomatie ?
Alors, ça existe depuis très très longtemps. Alors, les historiens n'aiment vraiment pas la phrase de tout temps, mais enfin, depuis qu'on peut documenter l'existence de royaumes ou de sociétés installées, ces dons, cette diplomatie animalière a eu lieu. Parmi les exemples documentés assez lointains, on a celui d'une girafe, à peu près 1500 ans avant notre ère, hein, quand même, d'un don d'une pharaone pour un roi de Syrie, de mémoire. Plus proche de nous, Charlemagne. Qui avait reçu un éléphant d'Inde envoyé par les Abyssides, donc ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, des califats. Vous imaginez un éléphant avec sa chapelle dans la capitale impériale. Et en réponse, hein, bien sûr, Charlemagne avait envoyé de très beaux chiens de chasse pour faire honneur au sultan. Donc, par là, je veux dire que la diplomatie animalière, c'est-à-dire envoyer des animaux représentatif de chez vous pour une offrande, comme disons pour signaler la bienveillance que vous avez vis-à-vis d'un autre roi, reine, empereur, chef d'État, ça existe depuis très longtemps. Et ça se fait encore. Hein. Certains d'entre vous se souviendront de l'affaire de la Kalteke, qui est un cheval assez rare, qui avait été envoyé par le Turkménistan au président François Mitterrand, je crois que ça doit être 93 ou 94. Donc ça se pratique parce que c'est montrer à la fois faire plaisir à l'autre, mais aussi bénéficier d'une certaine empathie ou d'une certaine bienveillance culturelle de la part à la fois du souverain ou du chef d'État, mais surtout de la population, parce que il s'agit là d'animaux exotiques. Donc depuis très très longtemps, vous avez des caravanes qui échangeaient des animaux d'un continent à un autre, ça c'est très connu. L'échange d'animaux exotiques aujourd'hui est très, comment dirais-je, réglementé. Mais offrir, faire de la diplomatie animalière, ça se fait depuis des milliers et des milliers d'années.
Ok. Alors, donc, dans cette très longue histoire, l'Australie a également eu un rôle à jouer. On rappelle évidemment que lorsque la colonisation commence en Australie très tôt, eh bien, on ramène justement ces animaux étranges qu'on n'a jamais vus avant. Les kangourous, les koalas, les cygnes noirs. S'il y en a en Europe, c'est justement parce qu'ils ont été ramenés à cette époque. Mais vraiment, l'animal le plus étrange de tous, typiquement australien, c'est l'ornithorynque. D'ailleurs, on a mis très longtemps à savoir dans quelle case le classer. Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un mammifère? Ça a posé beaucoup de questions. Et donc, les premiers explorateurs, il y en a beaucoup qui ont voulu les ramener pour les montrer en Europe. Sauf que sur les nombreux ornithorynques qui ont été emmenés, en fait, il y en a très très peu qui sont arrivés vivants.
Oui. Alors, je vais redécoudre un peu ce que vous nous avez très bien raconté. J'ai un exemple d'un cacatoès qui est dessiné dans un tableau crois, des Pays-Bas au XVIe siècle, ce qui paraît absolument improbable, puisque la colonisation britannique commence en 1770 et officiellement en 1788 avec la première flotte. Mais en fait, vous aviez des tribus indonésiennes qui commerçaient aussi avec les aborigènes dans le nord, et les animaux déjà voyageaient bien avant la période coloniale. Pour la période coloniale, effectivement, quand les explorateurs arrivent, hein, au début, vous avez beaucoup de missions scientifiques. On est dans la dernière phase de colonisation, après, comment dirais-je, les Amériques du Sud, après l'Afrique et des colonisations absolument brutales et dévastatrices pour les populations locales, les puissances européennes se jettent dans la course à qui va grappiller les confettis du Pacifique. Et en l'occurrence, il y en a une grosse, c'est Terra Australis. Et ça se fait sous couvert d'expéditions scientifiques. Alors, observer le passage de Vénus, etc. Et vous avez tout un tas de naturalistes qui rejoignent à bord les capitaines qui sont en charge d'aller découvrir et prendre possession de ce qui pourrait être de futures nouvelles colonies. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez les dessins des premiers naturalistes, l'Australie ayant été coupée du reste du monde depuis des millions, des centaines de millions d'années, en réalité, elle a développé une faune et une flore que l'on sait qui est totalement différente du reste du monde. C'est bien qu'en fait, on est à un moment de grande, vous savez, la découverte naturaliste, mais aussi le classement, hein, classé dans des herbiers, classé dans des catalogues, etc. Et alors, ils ont beaucoup de mal à savoir qui appartient où. Vous avez les premiers dessins de kangourous, en fait, ils ne savent pas trop comment faire, ça ressemble à une tête de rat. Enfin, ils essayent de calquer les animaux européens qu'ils connaissent comme ayant eu des déformations qui se seraient devenues. Voilà. Donc, l'ornithorynque fait partie des animaux les plus mythiques dans le genre d'animaux bizarres australiens, parce qu'en fait, c'est un bec de canard, mais ça a un espèce de petit corps de loutre avec une queue de castor. Et puis, c'est un mammifère. Mais ils pondent des œufs. Alors, où est-ce que vous le classez? Et c'est un animal tout à fait intrigant, qui est non seulement assez mignon, mais il n'est comme aucun autre animal à la surface de la Terre. Et donc, très rapidement, on est intéressé pour le montrer. Parce que les animaux, non seulement en termes de diplomatie animalière, mais en termes de connaissances scientifiques, une nation est valorisée par ses connaissances scientifiques au XVIIIe, XIXe siècle. Il est donc très important de pouvoir saisir ces spécimens et de les montrer. C'est aussi un signe de pouvoir et de richesse. Donc, ramener des animaux exotiques, que ce soit pour la reine Victoria ou que ce soit pour l'impératrice Joséphine, hein, dans le cas de la France, où il y a tout un petit zoo qui est créé pour son Altesse impériale. C'est un signe de pouvoir, mais aussi un signe de puissance scientifique. Les ornithorynques, comme vous l'avez rappelé, sont capturés assez tôt, comme tout un tas d'autres animaux, que ce soit des koalas, que ce soit des kangourous, pour être ramenés. Cependant, la problématique avec l'ornithorynque, c'est que, un, il se reproduit très, 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 très mal, c'est quasiment impossible, en fait, en captivité, et que, par ailleurs, il a des besoins, non seulement en termes de nourriture, mais en termes d'écosystèmes qui sont difficilement reproductibles. Un koala de région froide, ou alors encore mieux, un kangourou de région froide en Australie, peut finalement assez facilement s'adapter à l'Europe. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Le kangourou, oui, le koala beaucoup moins, parce que si vous n'avez pas d'eucalyptus, vous ne pouvez pas le nourrir. Enfin, les eucalyptus, vous pouvez les faire pousser en Europe et ailleurs dans le monde.
Mais comme vous le disiez, effectivement, l'ornithorynque, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps. On arrive à la Deuxième Guerre mondiale et il y a un Européen qui aimerait beaucoup avoir un ornithorynque. On se demande pourquoi, d'ailleurs, ça n'est pas précisé. C'est le Premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill. Et l'Australie décide d'accepter et de lancer une expédition visant à ramener vivant un ornithorynque jusqu'au Premier ministre britannique à Londres. Alors, la première question, sachant qu'à ce moment-là, les relations entre les deux pays sont pas vraiment au beau fixe, qu'espère tirer l'Australie de ce geste à l'égard du Premier ministre britannique? Et puis ensuite, eh bien, on va voir effectivement comment tout ça s'est déroulé. Mais d'abord, qu'attend l'Australie de ce geste?
Je vais répondre à votre première question, parce que vous avez dit, et très justement, on ne sait pas pourquoi il était intéressé. Mais Winston Churchill est intéressé parce que c'est un grand aristocrate, c'est un ancien combattant, hein, c'est quelqu'un, c'est un impérialiste surtout. C'est quelqu'un qui s'est battu en Inde, qui s'est battu au Soudan, qui a été correspondant de guerre, à Cuba, puis après dans la Seconde Guerre des Boers. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué, avec beaucoup d'argent, beaucoup de statut social, et comme tout bon aristocrate, il aime bien collectionner. Lui, en l'occurrence, une de ses passions, à part la boisson, on le sait, ce sont les animaux exotiques. Encore une fois, parce que c'est un signe de pouvoir. Je veux dire, avoir des lions dans les années 40, c'est pas la même chose que d'avoir accès à un lion aujourd'hui. Bon, ça reste quand même extraordinaire, mais il y a une difficulté supplémentaire dans ces années-là. Et c'est un collectionneur d'animaux exotiques. On lui a offert au cours de sa carrière politique de nombreux animaux. Certains sont retrouvés au zoo à Londres. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a un intérêt pour ça parce que ça correspond non seulement à sa classe, à son rang, à sa conception de l'empire également, et puis parce que très clairement ça l'amuse et qu'il aime bien les animaux. Donc ça c'est la première réponse. La seconde. Question que vous m'avez posée par rapport à l'Australie en 43. Oui, on sait bien que les Australiens sont des Britanniques qui ont été déportés. Puis après, vous avez la Fédération de l'Australie en 1901. Donc l'Australie a son propre Parlement fédéral. Mais pendant assez longtemps, la sécurité australienne est assurée par la Grande-Bretagne. Ces décisions sont prises à l'ombre, au cabinet de guerre, et l'Australie est défendue par les Britanniques. Ça, il les aide pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez ce qu'on appelle la stratégie de Singapour, à savoir que en cas de guerre, et donc on y est, la Grande-Bretagne, via la Royal Navy, devrait assurer la défense de l'Australie. Sauf que la déferlante impériale japonaise, qui pouvait peut-être se prédire, mais pas s'imaginer en termes d'échelle, est accéléré et se propage à une vitesse dans l'Asie-Pacifique que le commandement britannique n'aurait su envisager. Et par ailleurs, 41-42, vous avez aussi Hitler, vous avez aussi Mussolini et puis Staline avant qu'il change de côté. Donc les Anglais se disent il faut qu'on rapatrie notre flotte de Singapour puisque la protection de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, d'autres dominions se fait depuis ce point fort qu'est Singapour. Singapour est prise par les Japonais, elle chute, les Australiens se retrouvent tout nus, complètement nus, quasiment sans défense, avec une grande partie de leur armée qui est en Europe ou au Moyen-Orient, et ils ont la peur de l'invasion japonaise. Alors, ce qu'on appelle le call to America, ils se tournent vers l'Amérique, ce qui explique beaucoup la relation aujourd'hui qu'on peut observer, pour que les Américains viennent utiliser l'Australie comme base arrière. Grosso modo, vous avez à peu près 2 millions d'Américains qui sont stationnés là pendant quelques années. Et là où on retrouve notre ornithorynque, c'est essayer de rétablir des relations de bonne volonté. Vous avez Winston Churchill qui annonce au ministre australien des Affaires étrangères, à l'époque, le docteur Evatt, qui plus tard fera partie des personnes qui ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU. Bref, Evatt, Churchill lui demande un ornithorynque. Ça lui plairait. Il en a envie plusieurs d'ailleurs. Et alors, on est déjà à une époque où les conservationnistes, en fait, essaient quand même de minimiser la destruction des espèces dites en danger, parce que la colonisation n'a pas aidé avec les renards, etc., tous les prédateurs que nous avons, enfin que les Blancs ont importés dans ce pays. Et Evatt dit, ok, on va lancer une expédition, on va essayer d'aller chercher un ornithorynque pour le Premier ministre britannique, en espérant s'attirer quelques faveurs. Et puis, si l'histoire se passe bien, c'est quelque chose qui sera apprécié des Australiens.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris, fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris.
L'amour de Slimane. Si vous êtes un fan de l'Eurovision, vous aurez reconnu donc la chanson qui a représenté la France. C'était en 2024. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants et on parle d'Europa Voice tout de suite après ça. Europa Voice numéro 166 de retour à l'antenne, en tout cas de mon côté, avec Nathanaël. Salut Nathanaël.
Salut Christophe, ravi de te revoir.
Nathanaël Bloch, je devrais dire, c'est comme ça qu'on t'introduit, hein, je crois. Non. En tout cas, ouais. Nathanaël, ravi de te revoir, oui exactement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un Europa Voice ensemble.
Eh oui, c'est passé beaucoup de choses cet été, et mm-hmm. puis
on a pas mal, la rentrée.
La rentrée, exactement. La rentrée ou l'été indien social, comme l'a appelé... un député français.
C'est bien dit ça.
C'est poétique.
C'est la rentrée, mais ça peut être assez rapidement être la sortie aussi pour l'autre cher Premier ministre François Bayrou. Alors racontez-nous un petit peu ce qui se passe, juste pour résumer en quelques lignes. On est aux portes potentiellement d'une nouvelle dissolution parce que ça s'annonce pas sous les bonnes augures pour François Bayrou. Est-ce qu'il a mis son gouvernement en jeu?
Alors sous la présidence Macron, Christophe, on a l'impression que les premiers ministres
ça valse.
ne se ressemble pas et en tout cas ne rassemble pas les Français parce qu'effectivement...
Surtout sur ce second terme.
Alors effectivement, parce que ça fait moins d'un an que notre cher ami Michel Barnier a lui quitté le gouvernement et on a eu les effets de la dissolution. Ce qui est aussi là assez dramatique, c'est que finalement, on pourrait penser que cette potentielle dissolution après le vote de non-confiance de François Bayrou est opportuniste de la part du Premier ministre. C'est-à-dire qu'il a changé de positionnement et puis ça ne plaît pas aux Français. Et en fait, je pense que François Bayrou est foncièrement sincère. C'est-à-dire que la question de la dette, la question de la réduction de la dette, c'est quelque chose qu'il développe depuis 20-30 ans. C'est vraiment... En termes de communication politique, on pourrait dire un narratif qu'il a avec lui.
Je vais être l'avocat du diable quand même, parce qu'il développe cette rhétorique, mais il a voté tous les budgets depuis 19 ans ou 20 ans.
Alors, il a voté effectivement les budgets, parce qu'à un moment, il faut...
Non, mais, on peut se poser la question.
Alors, à un moment, effectivement, il faut voter ces budgets, il faut voter ces projets de loi de finances. Mais ce que je veux dire, c'est que le déficit, la dette, ce sont vraiment des sujets de prédilection en termes politiques, de programme politique de François Bayrou depuis 20-30 ans, depuis qu'il a été pour la première fois candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, une des raisons, Christophe, pour laquelle François Bayrou n'a pas été candidat à l'élection présidentielle quand Emmanuel Macron lui-même s'est proposé lors de son premier mandat, c'est parce qu'il était aligné avec les positions de ce dernier sur ces questions de dette et de déficit. Et donc, d'une certaine façon, sans vouloir pleurer dans les chaumières, c'est ce qui peut-être est le plus chagrinant dans cette histoire, c'est que François Bayrou risque de sauter pour une position dans laquelle il est foncièrement sincère, mais qui ne va pas passer avec les autres groupes politiques, que ce soit à l'extrême droite ou à gauche, à l'extrême gauche.
Mais est-ce que dans tout ça, et encore une fois je vais faire l'avocat du diable, mais François Bayrou c'est un lion politique, c'est quelqu'un qui est là sur la plateforme politique depuis très 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 longtemps, des décennies. Est-ce qu'il a quand même pas mal joué son coup sur le moment aujourd'hui? Ce qui s'est passé cet été, la sortie de l'été, publiquement, ça a été quand même très, très, très compliqué pour lui.
Alors, il y a beaucoup de maladresses, ça c'est évident, Christophe. Et pas la peine d'ailleurs de jouer l'avocat du diable pour ça. Quand François Bayrou, dans ses allocutions télévisées, met en opposition ce qu'il appelle les jeunes versus les boomers, c'est évidemment, il fonce droit dans le mur. Enfin, il met en opposition les Français les uns contre les autres. Donc, il y a effectivement beaucoup de maladresses. Après, en termes de longévité du personnage politique, il est dans le paysage politique depuis très longtemps, François Bayrou, mais à part une de ses élections présidentielles où il a joué le troisième homme, excusez-moi du propos, j'espère que je ne vais pas choquer sur ses antennes, c'est quand même un peu le loser éternel.
Un peu, quand même.
François Bayrou, il a été ministre de l'éducation, encore une fois, il a fait une belle troisième place à l'élection présidentielle.
Il a été maire de Pau, enfin, il est maire de Pau.
mais je veux dire, il a aussi un peu cette identité. Je crois pas que c'est à cause des dérapages de cet été. Je crois vraiment que il continue de jouer sa partition, qui pour l'instant n'a pas été très empreinte de succès. Il est foncièrement honnête, ça je crois qu'on peut pas lui reprocher. Mais encore une fois, c'est plein de maladresses. C'est cette opposition des Français les uns contre les autres. C'est parler. Alors ça pour moi c'est complètement lunaire, mais c'est parler déjà de Pau 2026 et de la mairie, de peut-être une recandidature alors qu'on est en plein justement marasme politique au niveau national. Voilà,
il y a la rénovation de son bureau aussi qui a fait quand même pas mal de choses. En 40 000 euros dépensés dans son bureau.
Il y a plein de choses qui polluent en fait un discours qui pour moi n'est pas totalement déconnecté des réalités. La question par exemple du déficit, de le ramener sous 3% alors que c'est quasiment le double, de toute façon c'est pas une exigence française, Christophe, c'est une exigence de l'Union Européenne.
Absolument.
Welcome dans Europa Voice.
À la base de, quand on voit la feuille de route pour créer l'Union Européenne, en tout cas l'Union Monétaire Européenne, les 3% ils étaient là et on les a largement dépassés depuis un petit moment quand même.
Oui, on les a dépassés. Alors là aussi, je crois qu'il faut être honnête. L'état actuel des choses, ce n'est pas la faute de François Bayrou. La faute de François Bayrou, pour moi, s'il y a ce vote de non-confiance, c'est de ne pas avoir pu réunir les éléments politiques pour être en mesure d'avoir cette confiance des Français.
L'erreur est politique ici.
Pour moi, l'erreur, elle est pas tellement programmatique ou elle n'était pas tellement sur la vision. Parce que d'ailleurs.
Il faut rappeler qu'il n'a pas encore perdu. Hein. Ce n'est pas encore passé.
Non, bien sûr.
On extrapole beaucoup, quand même.
Rappelons-le pour les auditeurs d'Europa Voice et d'SBS. Pour l'instant, mathématiquement, puisque c'est comme ça que ça va se passer, il n'aura pas les voix pour continuer l'action du gouvernement. Alors, même s'il y a le soutien du président de la République qui mobilise ses ministres, patati patata, pour l'instant, encore une fois, mathématiquement, sur le papier, parmi les 577. Il n'a pas les voix qu'il lui faut pour continuer et mettre en route, ou plutôt mettre en œuvre sa feuille de route.
La date choisie par François Bayrou aussi, le 8 septembre, à deux jours d'une énorme journée sociale en France qui est prévue donc pour le 10 septembre, elle n'est pas anodine, cette date. Ce choix de mettre son gouvernement dans la balance le 8 septembre, justement avant ce conflit social.
Non, ce n'est pas anodin, mais alors... Encore une fois, pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit tellement...
Adroit, maladroit ?
Je ne suis pas sûr que ce soit tellement adroit, en fait. Parce que ce qui va se passer, là, juste d'un point de vue... Imaginez, vous êtes spectateur, vous êtes téléspectateur, vous êtes en France. Les deux narratifs qui vont s'opposer, c'est cette journée de colère ou de mobilisation. Je n'ai pas le wording exactement. Et face à ça, c'est les exigences contestées de François Bayrou. Donc, on va forcément analyser l'une... à la lumière de l'autre.
Mais est-ce que derrière ça, et je désolé vous interrompre, mais est-ce que derrière ça, il n'y aurait pas un Emmanuel Macron qui, en gros, je vais dire s'aborde, mais demande à François Bayrou et à son gouvernement de s'exposer à leurs propres responsabilités avant une journée qui, beaucoup de gens disent que cette journée, elle a aussi un peu une essence de gilet jaune. C'est pas forcément les ronds-points, c'est autre chose, mais c'est une journée qui a été rattrapée par les syndicats, mais c'est une journée qui a été créée par la société civile, entre guillemets. C'est des gens qu'on demandait à cette journée. Est-ce que cette peur, elle est pas là? Et est-ce qu'elle aurait pas été un petit peu ce qui se passe avec le gouvernement, un peu téléguidé de la part d'un Emmanuel Macron?
Mais c'est perdant-perdant, de toute façon, Christophe, parce que s'il a le vote de confiance, ça va pas calmer, enfin, ça va être encore, il y aura encore plus de confrontations, et ça va être une raison de plus.
Mais ça,
gilet jaunise.
Mais s'il perd,
ça va pas les calmer non plus.
Non, mais ça met un peu de plomb dans l'aile, en tout cas, sur cette journée du 10 septembre.
Non, parce que ça va juste donner raison aux gens qui vont se dire, même le personnel politique a rejeté ce que nous, société civile, rejetons. Donc, pour moi, c'est vraiment une situation perdante pour François Bayrou d'avoir calqué sa date. Parce qu'encore une fois, on va faire l'amalgame entre les deux. Alors que dans un cas, il y a un côté. Très lié au calendrier. Voilà, c'est la rentrée sociale. C'est classique en France, au mois de septembre, d'avoir des mouvements sociaux. De l'autre côté, encore une fois, le constat...
Les gens ont besoin de se dégourdir un peu les jambes.
Oui, mais le constat que fait François Bayrou, encore une fois, je pense qu'il est juste. Je pense qu'il est foncièrement partagé par beaucoup plus de gens qui ne le disent. Et il n'est pas lié surtout à la rentrée sociale. Et c'est là aussi où c'est maladroit, c'est que François Bayrou a raconté qu'il voulait consulter non pas les partenaires sociaux, mais les autres groupes politiques plus tôt, mais que la majorité d'entre eux étaient en vacances. Enfin, vous vous rendez compte aussi, encore une fois, en termes, là, rien que du point de vue de la communication politique ou de l'atmosphère politique, c'est catastrophique entre
alors
le bureau.
Il faisait des podcasts tout l'été en plus. Il a fait des podcasts tout l'été.
Non, mais entre ça, l'affaire du bureau, la mairie de Pau, encore une fois, l'erreur pour moi de François Bayrou, elle n'est pas sur cette analyse de la dette et du déficit. Elle est sur la non mise en œuvre des prérequis politiques pour que ça se passe bien. En gros, il a tout fait pour que ça se passe mal, et il a tout fait, encore une fois, hein, sans lire dans les boules de cristal, ce qu'on ne fait pas à Europa Voice, mais il a tout fait pour ne pas obtenir ce vote de confiance.
Alors, quid de l'après, si le gouvernement tombe le 8 septembre, donc en tout début de la semaine prochaine, il reste quoi à Emmanuel Macron aujourd'hui? L'Assemblée va être dissoute, il va y avoir une nouvelle élection législative, enfin, on repart dans ce cursus-là, mais foncièrement, jour 1 après le 8 septembre, donc le 9 septembre, il se passe quoi?
Il reste 70 millions de sélectionneurs déjà,
voilà, c'est ça.
pour choisir un Premier ministre. Non, plus sérieusement, il reste pas tellement d'options à Emmanuel Macron. Il reste finalement deux options sur la table. Une première option, ou trois options, je veux dire. La première option, c'est le processus classique. Je crois qu'on est on serait au septième Premier ministre, dissolution, élection à l'Assemblée nationale, Rassemblement national qui nous dit qu'il est prêt à gouverner, discussion, etc. Puis, nouveau Premier ministre, nouvelle majorité, changement de gouvernement. La deuxième solution, qui à mon avis pour moi n'est pas envisageable, c'est la démission d'Emmanuel Macron lui-même. La troisième solution, qui est peut-être la plus envisageable, et qui est surtout demandée par d'autres partis politiques, ce que je trouve intéressant, c'est la démission d'Emmanuel Macron, mais au municipal. C'est-à-dire d'anticiper la fin de mandat. C'est-à-dire que là, c'est trop compliqué de toute façon pour changer de majorité, parce qu'on va aussi rentrer dans la période électorale des municipales, hein, à partir de septembre, enfin à partir de maintenant là. Donc on veut pas brouiller, on peut pas tout brouiller à la fois. Donc il faut quand même une stabilité au niveau de l'appareil politique. Donc s'il y a déjà une instabilité au niveau de l'Assemblée nationale et de potentiellement des ministres, il ne peut pas y en avoir au niveau de la présidence de la République. Et donc ça pourrait être une espèce de troisième voie qui pourrait satisfaire les Français, parce que on ne sait pas non plus comment va évoluer cette situation. Est-ce que ça va durer on va avoir ce qu'on appelle en anglais un hang
parlement.
Est-ce que ça va se passer rapidement, enfin? Et puis surtout, encore une fois, on pourrait en être au septième Premier ministre, donc la liste commence à se raccourcir. Est-ce que Emmanuel Macron va passer l'arme à gauche d'une certaine façon et donner Olivier Faure, évidemment, se dit prêt à gouverner.
Les écologistes aussi. Hein.
Donc voilà, il y a pas tellement plein de scénarios. L'autre scénario, c'est que il ait la confiance et que ça continue. Mais
64% des Français veulent un Premier ministre issu de la société civile. On rêve ou pas?
Je pense qu'on rêve un peu. Je pense qu'on rêve un peu parce que sous Nicolas Sarkozy, on avait vraiment apporté de la société civile. C'était la première fois qu'on apportait vraiment de la société civile au sein du gouvernement. On avait vu les limites de ça déjà à l'époque. Après, ça s'était un peu calmé sous François Hollande. Emmanuel Macron l'avait fait entièrement et il y a une espèce de député blues ou de ministre blues, c'est-à-dire de gens qui, issus de la société civile, accédant aux responsabilités, se rendant compte en fait que c'est, je sais pas si c'est un métier à vie, mais en tout cas c'est un métier d'être ministre, c'est un métier d'être député, et on n'a jamais eu un taux de non-représentation aux élections législatives aussi haut sous Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en 2022, presque une majorité de députés issus du bloc central ne se sont pas représentés aux élections législatives.
Ils ont été vaccinés.
Et beaucoup d'entre eux, en fait, venaient de cette société civile. Donc, je crois que la formule magique de se dire on est au-dessus des partis, même si c'est un peu la lettre de la Ve République dans la Constitution, que le président soit au-dessus des partis, mais cette formule magique de dire on ne prend ni à gauche ni à droite, finalement, ni au centre, parce que c'est pas tellement en train de marcher, mais on va prendre des gens issus de la société civile, je crois que cette fable-là, elle n'est plus... écoutez, elle n'est plus entendue par les Français.
Et les Français ne sont pas forcément prêts pour avoir un grand patron en tant que Premier ministre. C'est pas aujourd'hui la demande de ce qui se passe dans la rue. Et ça pourrait aussi être à double tranchant pour Emmanuel Macron.
Ah oui, je crois que les Français, ils veulent une certaine stabilité et puis des gens avec de l'expérience. Encore une fois, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur là, vraiment juste basé sur des faits. C'est que pour l'instant, à l'Assemblée nationale, enfin, surtout au gouvernement, nous n'avons pas encore eu, et il n'y a pas de... Je ne dis ni que c'est bien, ni que c'est pas bien, mais nous n'avons pas encore eu de Premier ministre issu des partis majoritaires à l'Assemblée nationale.
Ouais. Mmh.
C'est-à-dire que d'une certaine façon, artificiellement, mais de manière tout à fait légale, le président de la République, pour l'instant, a bloqué l'accès à la fonction suprême de Premier ministre, à la fois à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Et c'est là aussi où on voit les limites peut-être du système de la Ve République, du vote, c'est que au bout d'un moment, c'est un peu comme, si vous voulez, quand on parlait beaucoup du barrage républicain au niveau des élections. C'est-à-dire que ça marche très bien sur le papier, mais au bout d'un moment, c'est contre nature par rapport à ce que les gens ont voté en première intention au premier tour. Et donc c'est là aussi, à mon avis, qu'il va y avoir un débat, c'est qu'au bout d'un moment, et encore une fois, on ne donne aucune consigne politique ici à Europa Voice et à SBS, mais encore une fois, que le président de la République ne nomme pas comme Premier ministre une personnalité issue des rangs majoritaires à l'Assemblée nationale, à un moment, ça ne passera plus pour les Français.
Oui, tout à fait. En tout cas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, je vous dirais peut-être de vous prémunir et d'aller consulter vos consulats, si vous êtes en Australie, que vous nous écoutez, d'aller consulter vos consulats et vous assurer que vous puissiez voter, parce que ça risque d'arriver plus vite qu'on le croit. Et vous savez comment on termine un Europa Voice ? Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël. Quelle belle chanson de Oshi aujourd'hui sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Véronique Serré qui est sur les ondes de Radio SBS. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Jean-Noël. Merci.
Véronique, d'abord, peut-être pour nos auditeurs, présentez-vous et parlez-nous de votre parcours professionnel comme violoniste.
Je m'appelle Véronique, je joue le violon depuis que j'ai 3 ans, mais peut-être dans les derniers... J'ai toujours joué le violon classique, ouais. Mais maintenant j'écris beaucoup de mes morceaux et je chante aussi et je fais des albums où je chante et je joue avec beaucoup d'autres personnes aussi.
Parlez-nous de votre enfance. Vous disiez que ça a été, vous aviez l'âge de 3 ans. Quel a été le déclic pour s'immerser dans la musique classique ? Est-ce que c'était l'influence de vos parents ?
Oh, en fait, je n'ai pas une famille musicale. Ouais. Ma famille vient de l'île Maurice et mon père dansait toujours le Sega, mais sinon on n'avait pas vraiment la musique à la maison, surtout pas la musique classique. Mais mon cousin qui s'occupait de nous quand on était jeunes, c'est lui qui jouait un peu de piano et un peu de violon. Alors moi je marchais après lui tout le temps en train de jouer, prétendre en fait de jouer au violon. Alors on a dit à mes parents que j'aurais dû commencer. Et bon, j'ai commencé à l'âge de 3 ans et je continue.
Et donc, parlez de vos études de musique classique. Est-ce que c'était ici en Australie ou bien c'était ailleurs?
J'ai commencé mes études ici en Australie, à Sydney, en fait, avec un professeur hongrois, une dame hongroise. Puis j'ai fait mes études à l'université, ici, au conservatoire à Sydney. Et puis je suis allée aussi en Europe, à Paris. J'ai fait des études avec Jean-Jacques Cantorov. J'ai aussi étudié un peu à Londres avec un professeur David Takeno. Et maintenant, je suis là, à Sydney encore.
Et quelle a été la plus grande influence en ce qui concerne la musique classique, les violonistes de musique classique pour vous?
Je ne sais pas, j'adore Maxim Benkerov, j'adore une autre violoniste qui s'appelle Victoria Molova, et beaucoup de jeunes maintenant. Mais en fait, moi j'apprends beaucoup avec des autres musiciens, pas tout à fait des violonistes, mais des chanteurs ou des compositeurs. Juste en travaillant avec beaucoup de différentes personnes, c'est là que je peux m'exprimer comment je veux maintenant.
Et en Australie, vous avez joué avec d'autres orchestres, d'après ce que je comprends, l'Australian Chamber Orchestra.
Oui, exactement. Pour très longtemps, j'ai joué avec Australian Chamber Orchestra. Et en fait, en ce moment, je joue avec eux. Oui. Et j'ai joué avec les orchestres symphoniques de l'Australie aussi. Oui.
Véronique, parlons du Brisbane Festival où vous allez présenter votre spectacle prochainement le 14 septembre. À quoi est-ce que le public peut s'attendre?
Ah oui. En fait, ça, c'est de la musique que moi j'ai composée moi-même.
Ouais.
Et il y a des visuels. C'est surtout sur la nature. Alors, c'est mon album qui s'appelle Migrating Bird. Et c'est un album d'oiseaux de partout. Et en fait, la dernière chanson, ça s'appelle Dodo. Alors, c'est comme l'oiseau de l'île Maurice. Mais ce sera moi. Je joue mon violon normal et aussi un violon électrique et je chante. Et puis, j'ai quelqu'un qui me joint avec la batterie et aussi contrebasse. Et puis, William Barton, il va jouer avec moi sur son didgeridoo. Et on joue au Powerhouse à Brisbane. Ce sera super.
Et donc, vous allez présenter plusieurs concerts à ce festival de Brisbane?
Ah non, non, c'est juste un concert. C'est à 2h le 14 septembre.
Alors, vous avez plusieurs musiciens au sein de votre groupe?
Oui, qui joue avec... Oui, c'est un band, un genre d'ensemble. Alors, ils jouent avec moi, oui.
Et généralement, ils vous accompagnent lors de vos tournées? Ce sont les mêmes musiciens?
Ah, oui, ouais. Oui, exactement.
Parce que je crois que vous étiez au Bleach Festival de Gold Coast récemment, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et c'était les mêmes musiciens avec moi. Alors, j'ai 3 musiciens qui jouent avec moi et moi.
Parlons de cet album, Migrating Birds. Quels sont un petit peu les thèmes? C'est sur les oiseaux, j'imagine.
Oui, c'est sur les oiseaux, mais c'est surtout la nature. Alors, la première partie de l'album, c'est un genre de landscape, et c'est la nature de l'Australie, je suppose. Et puis, la deuxième partie de l'album, c'est aussi sur les oiseaux, mais aussi l'eau, beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de chansons sur l'eau. Et aussi, j'utilise des sons, j'ai enregistré des oiseaux quand j'étais à Brisbane pour un mois. Et puis, c'est tous ces oiseaux, ils sont là sur l'album. Et aussi, il y a des sons d'eau et tous des genres de trucs comme ça.
Et vous avez d'autres projets pour l'avenir, d'enregistrer d'autres albums? J'imagine que c'est en chantier.
Oui. En fait, en ce moment, je continue à m'en tourner avec cet album, mais je commence à penser ce que je vais faire pour le prochain. Alors, il faut que j'écris un autre. Alors, ça prend un peu de temps. Ça m'a pris quelques années, je suppose, pour faire celui-là. Alors, je commence, je réfléchis, je vais voir.
Et est-ce que vous avez déjà joué à l'île Maurice, présenté des concerts à Maurice?
Non, j'aimerais, mais pas encore. Je suis allée quelques fois, ouais. mais j'ai pas. Non, juste pour rencontrer la famille là-bas, mais j'ai pas fait un concert là.
Et donc, cette chanson Dodo qu'on retrouve sur votre album Migrating Birds, c'est pour rendre hommage à l'île Maurice, quoi.
Oui, exactement. Exactement.
Et qu'est-ce qu'il y a dans cette chanson de particulier? Est-ce qu'il y a une musique mauricienne qu'on peut détecter?
Oh non, non.
Pas du tout.
Non, non, c'est non, pas du tout. C'est juste.
Classique.
Oui, classique.
Et Véronique, quel est le message que vous auriez pour inviter les gens, le public australien, à venir au Brisbane Festival prochainement?
Oh, mais venez, c'est vraiment un genre de musique que vous n'avez pas entendu tout à fait avant, mais c'est très, ça peut être populaire, et c'est vraiment un sens de la nature. Alors j'essaie d'amener la nature de dehors, mais en dedans, et ce sera super.
Véronique Serré, merci infiniment d'être intervenue sur les ondes de Radio SBS en français. Et meilleurs vœux, bonne continuation.
Ah, merci Jean-Noël, plaisir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout haut, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier.
je le rêve.
Et c'était Tout oublié de la chanteuse belge Angèle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.u/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.